Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Je veux bien que l'année 2018 soit une année de paix pour le Bénin et pour l'Afrique en général. Que nos dirigeants écoutent le peuple, soient au service du peuple. Faire en sorte que l'Afrique se développe, l'Afrique grandit également. Voilà mes voeux. C'est Équilibre au Séni, à Cotonou. Merci beaucoup.
Qui n'espère pas, chaque début d'année, que celle-ci soit apaisée, plus clémente? Ce que vous, fidèles à la Deutsche Welle, attendez et espérez de 2018, nous en parlons aujourd'hui pour cette première édition de l'année du Club des auditeurs et internautes, animé par Mireille Drone, à votre écoute, comme toujours. C'est tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bonne année, bonne santé, nos meilleurs voeux à toutes et à tous, c'est ce que je vous souhaite. Et un petit coucou tout particulier cette semaine à Silvio de Montréal au Canada, Odon de Sao Paulo au Brésil, Raif de Beyrouth au Liban, Ben de Gabès en Tunisie, Denis de Lomé au Togo, Souleymane de Ouagadougou au Burkina, Djibril de Conakry en Guinée, Ahmed d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Cher de Nara au Mali, Moussa de Tawa au Niger et Vérité de Guisséni en RDC, en les remerciant tous de leur attention. Et puis un grand bonjour aussi à nos radios partenaires comme Radio Lumière d'Aného au Togo, Radio Clédou au Mali et FM Liberté de N'Djamena au Tchad. Et puis, félicitations à Reda de Mila, Belkir de Ouargla et Saïd Ben Hossin de Bogni, tous les trois en Algérie, Eilon de Dogbo et Casimir de Cotonou au Bénin, El Hadj Clairo et Amina, tous les deux de Sokodé au Togo, Koubem de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Issa de Fatik et Amadi de Dakar au Sénégal, Justin d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Herman de Kabinda en RDC, Michel de Boutaré au Rwanda, Romaric de Bangui en Centrafrique et Adoum d'Abéché au Tchad. Ils ont tous fêté, devinez quoi? Eh bien oui, ils ont fêté ces derniers jours leur anniversaire. Alors nos meilleurs vœux à eux tous. Au Togo, l'année a commencé par une grève des médecins et praticiens dans les établissements hospitaliers. Ils protestent contre leurs conditions de vie et de travail et contre le fait que le gouvernement fait la sourde oreille à leurs revendications. Benoît de Lomé défend cette grève pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des médecins et pour les patients aussi. Jeff Daneho pense aussi que cette démarche est légitime. Leurs revendications ne datent pas d'aujourd'hui, mais de plus de 5 ans déjà. Le gouvernement a fait des efforts, certes, mais ce sont des gouttes d'eau dans la mer, écrit-il, déplorant que les médecins ou praticiens travaillent dans de mauvaises conditions, dans des hôpitaux qui manquent de coton, d'alcool, de bétadine, sans compresse, sans lit, sans appareil. Hélas, cette grève a bien sûr des répercussions sur les malades, puisqu'on peut enregistrer des décès, reconnaît Jeff, qui invite les politiciens à revoir leurs copies. Cet autre internaute nous a laissé, lui, un message sur WhatsApp.
Je crois que les médecins avaient averti les autorités de cette grève, mais comme à leur habitude, ils n'en font qu'à leur tête. Et depuis le 19 août dernier, le pays est dans une très grave crise. Il y a des pénuries d'essence partout dans le pays. Et le gouvernement a eu beaucoup de mal à boucler cette fin de l'année avec des salaires impayés, des salaires souvent payés à moitié, tout ça. Et j'espère que notre gouvernement comprendra.
Koumi de Lomé souligne aussi que le malaise est général. Les politiques sont dans les rues pour les réformes, les enseignants de l'éducation sont en grève, les employeurs des institutions bancaires menacent et annoncent aussi des grèves. Et au cours de cette semaine, il y a eu augmentation des prix des produits pétroliers. Décidément, rien ne marche dans le pays, regrette Koumi. Et pourtant, Elie, dans la capitale, affirme que dans ce même Togo où l'on manque d'infrastructures adéquates, où les personnels soignants ne sont pas bien rémunérés, eh bien, les barons du pouvoir ne font que piller le pays. Sur Twitter, Kofi du Togo toujours proteste contre les milliards que son pays dépense en achat de matériel militaire, mais combien sont investis dans l'éducation ou pour mettre à jour nos hôpitaux, interroge-t-il. Fataou, togolais lui aussi, espère que les autorités comprendront le message.
La population togolaise en a marre déjà par rapport au régime de gouvernance et si ce problème aussi atterrit, il me semble que c'est un champ de mort, on va observer sur toute l'étendue du pays. Ce moment de grève doit être un signal très fort. Le régime en place va devoir résoudre ce problème avant que les choses tournent à l'envers. Il va devoir revoir ce système-là.
Et puis, à l'occasion des vœux du nouvel an à son peuple, le président Faure Gnassingbé a réitéré réitéré son engagement de dialoguer avec l'opposition comme unique voie pour désamorcer la crise, sans toujours préciser de date pour ce dialogue. André du Togo ne croit pas à ces propos. Il a parlé de dialogue et aussi d'élection, donc il tient deux discours. D'un côté, le dialogue pour faire croire à la communauté internationale qu'il est de bonne foi, et de l'autre, un référendum pour dire qu'il ne lâche rien. Dans tous les cas, les opposants savent qu'ils n'obtiendront rien. On se connaît, affirme notre auditeur. Aimé de Cara n'y croit plus non plus.
Le discours que Fonia Sibé a fait, c'est encore une provocation à l'égard du peuple togolais. Il nous parle du dialogue. Est-ce qu'il a déjà appliqué les accords qui ont été signés en 2006 quand il est arrivé au pouvoir en marchant sur plus de 1000 morts? Est-ce qu'il a déjà appliqué? Il parle du dialogue pour discuter de quoi? De son maintien au pouvoir à vie ou bien de ses conditions de départ? Il parle du dialogue et au même moment il parle de référendum pour lui permettre de mettre le compteur à zéro, pour lui permettre de monarchiser le pays. Nous, on n'attend rien de ce qu'il a dit et les dictateurs ont besoin d'être chassés du pouvoir.
Paul du Togo également est bien d'accord. Selon lui, ce président est assoiffé de pouvoir. Il y a eu au total 29 dialogues et zéro application. Ils veulent encore duper le peuple. C'est triste, s'exclame-t-il. Sans aucune illusion non plus, Aristide affirme que ce sont des propos en l'air, toujours les mêmes. C'est un discours vide. On mettra bientôt des bâtons dans les roues des opposants, prédit-il, et de souligner le risque que la population qui n'a plus les moyens de vivre se révolte et s'arme pour combattre les militaires, créant les prémices d'une guerre civile. Le peuple togolais n'en veut plus, martèle Aristide. C'est que la majorité écrasante des Togolais croule sous de réels problèmes, souligne Lolo de Tsevier. Le système éducatif est paralysé, le secteur de la santé durement touché et bientôt gravement malade, la situation sociopolitique bizarroïde, avec une crise de confiance prononcée et une pauvreté aiguë, la situation financière qui va décrescendo. Fornia Singbe a toujours fait de la fuite en avant sa stratégie de gouvernance. C'est un président qui parle de dialogue mais ordonne aux militaires de tirer à balles réelles sur les populations dans différentes villes du pays, observe notre auditeur désabusé. Selon Gildas de Niamey, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Le pouvoir veut engager un énième dilatoire avec l'opposition et ignore les revendications légitimes du peuple. Alors bien évidemment, la France pourrait faire pression, mais elle ne le fera pas car ce sont nos problèmes internes et la France se refuse à se mêler des affaires de ses anciennes colonies ou peut-être parce que le groupe Bolloré brasse des milliards et que notre président détient des capitaux dans cette entreprise, remarque Franck du Togo. En revanche, James de Lomé pense que le dialogue est la solution et c'est ensemble que pouvoir et opposition peuvent trouver une date. Si ceux qui martèlent les pavés tout le temps en paralysant les activités des citoyens qu'ils prétendent aimer veulent le bien de leur pays, alors je leur demande de laisser leurs calculs et de rejoindre la table du dialogue, écrit notre auditeur. Au Burkina Faso, l'année a commencé par un discours du président Roch Marc Christian Caboret, dans lequel il a annoncé sa volonté de réformer efficacement les institutions du pays et de moderniser l'administration en se départissant des mauvaises pratiques et habitudes qui pèsent sur la qualité des services publics. C'est dans ce cadre qu'il a pris la décision d'allonger la durée du temps de travail des fonctionnaires de 30 minutes. Pour plus d'efficacité, ceux-ci devront faire une journée continue de 7h30 à 16h, avec une pause de 30 minutes seulement pour le déjeuner. Des mesures pas très bien accueillies par les Burkinabés, en témoigne Karim, qui travaille dans le secteur de l'éducation dans le centre-est du pays.
Bon, comme la situation est un peu tumultueuse due aux différentes manifestations, nous attendons la reprise effective pour pouvoir qu'est-ce que l'année 2018 nous réserve. Sinon, présentement, nous, du monde de l'éducation, nous sommes dans une période vraiment très difficile et délicate. Et nous pensons que peut-être avec ces horaires et puis la nouvelle année, ils vont se pencher plus sur nos conditions de vie. Parce que vraiment, nous attendons beaucoup de ce gouvernement-là parce que les conditions ne sont pas vraiment très propices.
Oui, si j'ai bien compris, il y a une certaine tension avec les syndicats puisque une grève est prévue cette semaine qui vient, là.
Oui.
Dans l'éducation.
Ça commence à partir du 9.
Oui.
9, 10, 11 du moins, voilà, qui est prévu.
Dans le secteur éducatif.
Voilà, dans le monde éducatif. Et vraiment, je pense que les gens ont compris que, en fait, nous sommes dans un pays, ceux qui dorment, elles font dormir aussi leurs ambitions, leurs aspirations. Donc, raison pour laquelle les gens ne veulent pas se laisser faire.
Oui.
Ils tiennent réellement à la grève, là. Et je pense qu'il faut peut-être ça pour qu'ils sachent que dans un pays, l'éducation vraiment est très capitale.
Oui, justement, quelles sont les revendications principales des enseignants?
Bon, c'est l'amélioration des conditions de vie, à savoir le salaire,
oui.
Et peut-être au niveau d'autres conditions de vie, on peut citer la construction des salles de classe pour les anciens, parce que dans certains endroits, il y a toujours des écoles supérieures. Et aussi le matériel, les manuels, est souvent de mauvaise qualité qu'ils distribuent. Que les gens veulent que désormais on associe les affaires même pour le choix même de ces manuels-là. Parce que souvent quand ça arrive, ce sont des manuels et même des fournitures vraiment inutilisables, vu la qualité.
Mais le président entend instaurer un nouveau système de rémunération de façon générale. Qu'est-ce que les Burkinabés en pensent ?
Ici, Antoine, nous pensons en fait que ce sont des moqueries, parce que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est parce que le monde éducatif, d'ailleurs, qui est le plus gros effectif de la fonction publique,
oui.
Et qui sont levés maintenant, ils pensent qu'il faut revoir tout. Quand les autres ont bénéficié, à ce temps, il n'y avait pas de problème. Maintenant que ceux du monde éducatif, qui est le plus grand contingent, s'élèvent, on dit qu'il faut remettre à plat. Et ça prend combien de temps? C'est une fuite en avant. Et les gens ont compris, ils ne vont pas se laisser
faire.
Oui.
Et le fait donc que tous les fonctionnaires doivent travailler plus longtemps, tout ça, est-ce qu'on a un peu de compréhension sur cette volonté de rendre les institutions plus efficaces?
Sur la question du temps de travail, je pense que les gens adhèrent parce que vu la situation nationale, on s'est dit que ça favorise plutôt plus d'une personne quant à leurs habitudes, voilà leur commodité. Parce que désormais, les gens pourront après même se donner à d'autres activités. Par exemple, beaucoup de gens, surtout dans notre monde, ils veulent vraiment poursuivre des études pour avoir d'autres bagages intellectuels. Donc, avec ces horaires-là, ils auront peut-être même la chance de faire des coups du soir.
Et est-ce qu'on comprend un petit peu les appels au patriotisme du président?
Quand on parle du patron, ça doit commencer là-haut et descendre. On ne peut pas déjà demander ceux d'en bas d'être patriotiques, du moins que ceux même qui sont nos autorités et ne le sont pas.
Qu'est-ce qu'on reproche finalement aux autorités de façon générale? Est-ce que beaucoup de Burkinabés sont un petit peu déçus de la nouvelle équipe au pouvoir?
Bien sûr, les gens sont déçus de la nouvelle équipe. Vous-même, vous voyez comment les choses... Depuis l'insurrection, beaucoup de gens pensaient que les choses allaient changer. Mais aujourd'hui, on ne voit même plus notre slogan, plus rien ne serait comme avant, parce que vraiment, on a compris que c'est un leurre. Donc, les gens sont vraiment dessus.
Beaucoup d'entre vous estiment qu'en Afrique, en général, des réformes sont nécessaires pour améliorer l'efficacité au travail, comme Héro Dazové au Bénin.
Je pense que la décision du président Roch Christian Kabore est très, très importante. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Nous perdons beaucoup de temps en Afrique. Et si il peut nous le respecter, ce serait bon. Et je pense également que pour le bon fonctionnement de nos administrations publiques, nous devons éviter beaucoup la corruption. Et si chaque ministère peut sensibiliser ses administrés, je pense que ce serait très, très intéressant. Il faut qu'on pense à l'intérêt général du pays et véritablement ça va développer. Quand on va produire beaucoup, je pense que ce serait bon.
Mario, dans le Colorado, défend aussi un système plus efficace qui a donné de bons résultats aux États-Unis, par exemple, où il réside actuellement. Et il nous parle d'expérience.
Moi, je vis aux États-Unis et en fait, la pause de 30 minutes par jour, c'est obligatoire. En fait, c'est la règle. Le système francophone est très différent. Parce que je fais la France et le Togo. Actuellement, nous, dans ce système américain dans lequel je travaille, le travail commence à 8h30 le matin et à midi, il y a une pause de 30 minutes. Quand vous dépassez la pause de 30 minutes, vous payez à votre société. Après la pause de 30 minutes, vous reprenez le boulot jusqu'à 17h, 17h30. Et toutes les heures sont marquées. Parce qu'il y a une machine, un ordinateur qui marque les entrées, l'heure de pause et l'heure de reprise du travail jusqu'à l'heure de fin. C'est la règle en fait. Donc si le Burkina change les heures de travail, c'est pour plus de rendement, plus d'efficacité de la fonction publique. Et voilà, c'est un bon résultat. Si tous les pays africains pouvaient adopter le même système, ça serait une grosse avancée.
Et puis, selon Mahamane de Gao au Mali, l'efficacité dépend aussi des moyens mis à disposition des fonctionnaires, et notamment l'outil informatique.
Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le retard peut être rattrapé par des systèmes efficaces qu'on peut développer, que les agents publics puissent exploiter ces outils et répondre à la demande et résoudre les situations de façon rapide avec les nouvelles technologies. Quand on change de méthode de travail, ça c'est d'ailleurs dans tous les pays africains, notamment le Burkina et le Mali ont beaucoup de choses en commun et les services publics, les démarches sont vraiment lentes. Donc la solution est d'aller vers les nouvelles technologies dans les structures publiques que les agents soient bien formés et puissent les utiliser pour un rendement meilleur.
Du Togo, Awali observe que le rendement est aussi une question de motivation. Il faut donc améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, mais aussi recruter les bonnes personnes au bon poste. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui exercent leur métier juste pour éviter d'être au chômage. Au Tchad, le président Déby a annoncé la tenue d'élections législatives pour cette année 2018. Elles étaient prévues depuis 2015, mais plusieurs fois repoussées. Au pouvoir depuis 1990 et réélu pour un cinquième mandat en avril 2016, à l'issue d'un scrutin contesté, le chef de l'État avait déclaré que, faute de moyens financiers, les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Appelant lui aussi au patriotisme de ses compatriotes, le président tchadien a par ailleurs annoncé la tenue d'un forum national inclusif qui rassemblera toutes les forces du Tchad pour examiner les différents axes des réformes à venir. Mais déjà, syndicats et travailleurs sont sur le qui-vive parce que même si ça n'est pas encore officiel, le gouvernement entend procéder à une réduction drastique des salaires des fonctionnaires. Les abattements pourraient aller jusqu'à 45% dans certains cas, ce qui suscite la colère des syndicats et des travailleurs tchadiens. Voilà ce qu'en dit Deo Gracias, auditeur dans le sud du Tchad.
Mes amis ont dit, hein, en tout cas, cette fois-ci, c'est fini. Si cette mesure est appliquée, on reste à la maison, on ne fait rien. Et puis, bon, plutôt au gouvernement de gérer la suite.
Vous avez l'impression que les Tchadiens ont déjà assez donné? Parce que le président Déby a dit que c'est pour juguler la crise économique.
Mais on devrait d'abord commencer par des négociations. Déjà à l'Assemblée ou au niveau des ministères ou avec les travailleurs, avec des fonctionnaires. C'est des négociations ou des syndicats, des sociétés civiles. Mais ce n'est pas prendre une décision comme ça. Déjà, on est en train de supporter le coût de 16 mesures prises. Le principal, c'était les réductions des primes. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont vu leurs primes supprimées. Il y en a qui ont vu leurs primes réduites. Comme chez nous, par exemple, enseignants, la prime a été réduite. On avait 95 000, ça a été réduite à 45 000 francs. Donc, on est presque la moitié. Donc, c'est un peu difficile. On n'a pas encore pu diriger cette mesure. Et encore une autre qui est plus alarmante, ce n'est pas normal.
Et alors, le président a annoncé aussi un forum national inclusif pour examiner les réformes à venir. Pour cette année, qu'est-ce que vous en attendez?
Bon, tout ce projet, nous n'attendons rien d'autre qu'un avenir en tout cas sombre, parce que rien ne va ressortir de ce forum. Ceux qui ont négocié, qui ont élaboré des textes, se sont vus remplacer au gouvernement. Donc, ce sont des nouveaux qui arrivent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça va être toujours la même chanson.
Mais le président a enfin quand même annoncé pour cette année des législatives qui devaient se tenir déjà depuis longtemps, mais cette fois-ci, ce serait pour 2018. Et donc là, vous pensez que cette fois-ci, c'est bon?
Non, ça, je n'y crois pas, parce qu'il n'y a rien qui prouve. Parce que déjà, on annonce, on dit non, il y a de la crise, il y a ceci, il y a cela. Donc, arrivé au moment opportun, on nous dira que non, comme nous vivons la crise, ça ne va pas être possible, ça demande trop d'argent. Donc, on ira même au-delà de 2019 même, hein, parce que cette crise-là, c'est comme une crise créée et n'est pas comme une crise réelle, parce qu'une partie vit bien et une partie ne vit pas bien. Donc, pour moi, c'est comme une crise créée. Donc,
créée, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de changement et que les responsables qui sont en place le restent aussi longtemps que possible.
Voilà. Mais pour quelle fin? Je ne sais pas. Pourquoi faire souffrir le peuple? Pourquoi créer tout ça?
Marcus, sur Facebook, estime aussi qu'il s'agit de crises artificielles au Tchad. Ceux qui ont pris le pays en otage le savent. Et ils savent aussi comment sortir le pays de cette situation. Mais ne le veulent pas et font semblant. Mais on s'est sacrifié et on ne peut pas continuer à sacrifier nos enfants et l'avenir du Tchad pour eux, affirme Marcus. Mahamane N'Djamena au Tchad souhaite quant à lui un changement à la tête de l'exécutif de son pays. Hélas, la communauté internationale se moque des Tchadiens, regrette avec amertume Abdrahmane du Cameroun. Le Tchad, pays pétrolier et allié majeur de l'Occident en Afrique subsaharienne contre les djihadistes, se débat donc dans une crise économique et sociale sévère, principalement due à la chute du cours du pétrole. Mais pas seulement. Cette question économique, en Afrique en général, interpelle également Hyacinthe de Nyonga au Congo-Brazzaville.
On entendra dans leur message à la nation du 31 décembre 2017 des présidents africains se plaindre de la chute des cours mondiaux, mais jamais de mauvaise gouvernance ni de mauvaise gestion. La baisse des prix des matières premières ne justifie pas seule la mauvaise santé économique de nos pays. Aucun pays ne sollicite une révision à la hausse des prix des matières premières. Tous appellent plutôt les institutions financières internationales au secours. Nul ne sachant quelles seront la durée et la gravité de cette crise, il est imprudent de ne compter que sur ces institutions financières.
Le vœu le plus cher pour 2018 de Ben à Bujumbura au Burundi, c'est que la crise économique cesse une bonne fois pour toutes, parce que la population en a déjà trop souffert, écrit-il. Du côté de la République démocratique du Congo, le mandat du président Kabila, élu en 2006 et réélu en 2011, a expiré depuis le 20 décembre 2016. Un scrutin présidentiel doit se tenir le 23 décembre 2018, mais l'opposition exige son départ et la mise en place d'une transition sans Kabila. Et la situation est pour le moins tendue. L'Église catholique a poursuivi toute cette semaine ses attaques contre le régime du président en dénonçant les brutalités policières au cours d'une messe à Kinshasa à laquelle participaient deux des principaux opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors tout ce que souhaite Sonny de Mweneditu en RDC pour cette nouvelle année, c'est que son pays retrouve la paix et la stabilité économique, sociale et politique. Un vœu partagé par de très nombreux Congolais comme Olivier de Lubumbashi ou Josias de Kinshasa, qui souhaitent que les élections, prévues donc le 23 décembre de cette année, se déroulent dans le calme et la transparence. À cet égard, Gatien de Kolwezi, en RDC toujours, qui rêve de voir son pays prospérer en cette nouvelle année, émet des doutes quant à l'utilisation de machines à voter.
Vous savez, nous sommes contents que le président Joseph Kabila aille à promulguer la loi électorale qui nous permettra enfin d'aller aux élections. Mais ici, des machines à voter, il y a un problème. Nous avons des pays plus développés que nous, à l'occurrence des États-Unis. Imaginez-vous qu'ils se trouvent avec des problèmes de piratage. Mais vous vous comparez avec notre pays, hein? C'est pratiquement inconcevable. C'est comme qui dirait, ils connaissent déjà la personne qui sera le président en 2019. Il y aura des fraudes et pour cela, il y aura des désordres parce que les opposants et les MP vont commencer à se chamailler sur ceux. Les gens de la majorité acceptent que cette machine soit en œuvre, mais les gens de l'opposition s'y refusent. Donc, il faut revoir la décision du chef de l'État. Je ne vois même pas l'avantage de cette machine, je vois que l'inconvénient.
Hélas, le pouvoir cherche à tout prix à mettre en déroute ceux qui pensent contrairement à lui. Alors que la Constitution garantit la liberté de penser et de manifester en toute liberté, observe Alfred de Goma, un avis que partage Adam de RDC toujours. Mon pays va vraiment mal, la CENI est manipulée par le gouvernement et s'il n'y a pas d'élection crédible, les Congolais seront obligés de réagir pour reprendre le pouvoir. De Goma, dans l'est du pays, Salé souhaiterait que Joseph Kabila se prononce clairement pour dire qu'il ne se représentera pas à sa propre succession et que le calendrier électoral sera respecté. Et toujours dans l'Est, Pamela de Bukavu, qui appelle de ses voeux la paix dans son pays, elle garde espoir que Joseph Kabila sortira dans le calme. Mais si les Congolais se mettent à la rébellion, il ne sortira pas, craint-elle. Déborah, sa compatriote à Kinshasa, a une pensée, elle, pour les enfants de son pays.
Les années passent. Dans ma communauté, il y a beaucoup plus d'enfants qui n'étudient pas. Je dois être la voix de ces enfants pour qu'enfin ils puissent au moins avoir l'instruction. L'éducation, c'est les parents qui donnent, mais l'instruction revient à l'État congolais de prendre soin de ses enfants. Mais nous comptons de milliers, alors de milliers d'enfants qui n'y sont même pas à l'école. Et aussi, la plupart qui étudient, ils étudient dans des conditions vraiment déplorables. J'ai du mal à voir qu'il y a des enfants sur, qui n'ont même pas 10 ans, mais qui partent au marché pour vendre ce que je dis. Et c'est là, perdre leur innocence. C'est vraiment quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Et donc, j'aimerais voir mes parents heureux. J'aimerais voir le changement dans mon pays. J'aimerais voir dans cette année, alors là, c'est un rêve, que tout se passe bien, qu'on ne parle plus de massacre à l'intérieur de mon pays, qu'on ne tue plus mes frères. J'aimerais bien qu'il en soit ainsi pour cette année.
Mon rêve pour 2018 est de voir la paix sur toute l'étendue de la RDC pour que le pays puisse panser ses plaies, qu'il puisse s'installer un état de droit et que tous ces enfants qui n'ont connu que la guerre puissent retrouver la joie et avoir la chance de pouvoir se rendre à l'école et ainsi pouvoir avoir un avenir radieux loin des crépitements des balles, nous écrit aussi Emmanuel de Lubumbashi. Si nous pouvions mettre de côté nos intérêts personnels au profit du bien-être collectif, nous pourrions y arriver et bâtir une nation grande et prospère, se plaît-il à rêver. Pour terminer, Bewezima de Lomé au Togo nous écrit, lui, que ses pensées vont aux populations dont les droits sont bafoués, ainsi qu'aux personnes déplacées en raison de l'instabilité politique dans certains pays. Et il espère de tout cœur qu'elles retrouveront le réconfort lors de cette nouvelle année, un vœu que nous partageons aussi, bien évidemment, et nous reviendrons, bien sûr, sur ces sujets tout au long de l'année. Si vous voulez nous suggérer des thèmes qui vous tiennent à cœur, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail, par exemple, c'est mireille.drone@dw.com. Et puis, notez que vous pouvez retrouver cette émission, comme tous les programmes du service en français de la Deutsche Welle, sur notre site internet. Notre adresse, c'est dw.com/français. Vous y trouverez aussi les liens vers nos pages Twitter et Facebook. Et si vous voulez recevoir nos infos via WhatsApp, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp pour vous inscrire. Vous êtes bien sûr invité à nous laisser aussi des messages parlés ou écrits. Voilà, merci de votre fidélité. Très très bonne nouvelle année encore à tous. À bientôt, le plaisir de vous lire. Au revoir.
Fanny, the number, never know why you're fanny, the number, Yereki fanny, the number, never know why you're fanny, the number, Madame Wande, Vitali.